Votre exploitation d'abord, où est-elle? Que produit-elle?
Alors moi je suis sur une exploitation en société, comme beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, avec mon époux, dans le bassin de vie de Montélimar. Dans un département, au vu des propos que je viens d'entendre, qui est sans doute un petit peu atypique, puisque nous sommes à mi-chemin en vallée du Rhône entre Lyon et Marseille, et que nous sommes en département où les chiffres récents et du recensement agricole et de l'INSEE nous montrent qu'on n'a pas arrêté depuis 40 ans d'augmenter la population. Donc nous, nous sommes sur une exploitation où, dans ce département extrêmement attractif et où les enjeux sur le foncier, ça n'a pas encore été dit, mais sont énormes, sur l'occupation du territoire, entre les différents usages possibles du territoire, eh bien, où il est très difficile de s'agrandir. Et donc, pour trouver de la valeur ajoutée, nous sommes un département où nous allons sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des cultures spécialisées. Il s'agit bien sûr, dans notre cas, de production de semences, qu'il s'agisse de blé dur, de tournesol, de potagère, de maïs, et des cultures légumières, puisque nous avons aussi la chance d'avoir un climat propice, et ça nous permet de faire des cultures légumières, donc tomates, courges, ail. Et voilà donc un peu le type. Et dans un département où les exploitations, à l'issue du dernier recensement de 2010, sont toujours en moyenne sur une cinquantaine d'hectares.
On va rester 2 minutes sur l'exploitation. Vous avez aussi des mandats professionnels dont nous reparlerons après, et des engagements en matière sociale. Mais sur l'exploitation, quand j'entends les cultures, les productions que vous énumérez, ça implique des notions de marché très, très différenciées. Alors, où vendez-vous et comment vendez-vous, dirais-je?
Mais écoutez, nous sommes intégralement en coopérative. Sur toutes les productions.
Sur toutes les productions.
Donc nous sommes très exactement dans le schéma classique, du monde agricole historiquement. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas encore été dit. Et nous analysons dans un département comme la Drôme. Les territoires qui sont très attractifs pour nos concitoyens, paradoxalement peut-être, sont aussi des territoires très attractifs pour les familles agricoles. Et nous, dans ce territoire qui est très attractif, nous installons toujours, nous avons énormément de demandes. Et dans une région qui compte 8 départements, la Drôme, elle toute seule, fait aujourd'hui pratiquement 23% du chiffre d'affaires de la ferme rhône-alpine. Donc nous voyons bien que, nous analysons cela comme ça, les familles d'agriculteurs aujourd'hui ont les mêmes besoins, les mêmes demandes que le reste de la société. Excepté être mieux de s'installer agriculteur dans un territoire qui est très vivant, ça sera plus facile pour la femme, pour le couple, pour les enfants, pour tout le monde. Et voilà, donc je crois que ça peut paraître contradictoire, mais ces territoires qui attirent tout le monde, ils attirent aussi le monde agricole.
Vous ne posez pas le problème, en tout cas, ou le ressenti en termes conflictuels?
Ah si.
Ah, alors où se situe-t-il, si conflit il y a?
Non, mais je crois que le conflit de l'occupation de l'espace dans une région comme Rhône-Alpes est une vraie réflexion. Aujourd'hui, on voit que la population continue d'augmenter avec de nouvelles demandes. Nous, les chiffres qui viennent de sortir nous disent que dans les territoires ruraux les plus éloignés de la vallée du Rhône, les résidences secondaires représentent 40% de l'habitat rural. Donc on imagine bien derrière les conflits éventuellement d'occupation de l'espace, la difficulté de l'installation, l'impossibilité de faire des successions dans le monde agricole sur des territoires de ce type-là. Et ce que nous observons aussi, parce que nos élus bien sûr ont conscience de ces problèmes d'occupation, quelle est la réponse qu'on y apporte? Nous voyons nos maires, lorsqu'ils font leur PLU par exemple en milieu rural, et nos présidents de communautés de communes, dire, ah oui, il y a un problème d'occupation de l'espace. La première réaction, c'est de créer des zones naturelles protégées, de définir des espaces remarquables au titre de la biodiversité. Et alors moi, j'ai été complètement bluffée de découvrir que Raymond Lacombe, en 2001, dénonçait le risque de créer des zones monofonctionnelles. Eh bien, aujourd'hui, c'est bien ce qu'on est en train de faire en Rhône-Alpes. nous sommes en train de créer des zones monofonctionnelles. Et derrière, la question, ce n'est pas seulement que voulons-nous faire du territoire, quelle solidarité au cœur du territoire, mais y a-t-il encore une place pour les agriculteurs dans les territoires ?
Pour vous, la réponse est oui. Et en tout cas, oui, vous vous attachez à ce que cette place demeure et se conforte. Ce qui vous amène, je dirais, dans votre rapport au territoire, à vivre des dimensions d'engagement assez différenciées. Bon, il peut y avoir effectivement des proximités de marchés de locaux, hein, de vente directe, même si ça passe par le biais d'une coopérative. Mais vous m'avez parlé d'une expérience qui est tout à fait intéressante. C'est, comme vous êtes producteur de maïs, que donc là on est sur des productions qui se vendent sur des marchés internationaux. Ce qui m'a frappé dans notre conversation, c'est que peut-être un peu à l'image que l'on donne, disons, de certaines cultures céréalières, j'ai ma récolte, j'ai mon ordinateur, je suis branché sur la bourse du Chicago et je règle mon problème. Or, visiblement, ce n'est pas là une pratique des marchés qui vous inspire beaucoup personnellement. Mais pour le maïs, vous ne le vendez pas au porte-à-porte dans la Drôme. Bon, alors, comment vous avez résolu apparemment cette contradiction par rapport à d'autres tendances que l'on observe ?
Disons, ce n'est pas le terme résolu, mais je crois qu'il est peut-être intéressant de rappeler ou de raconter ici une initiative un peu particulière qui a été menée par l'Association Générale des Producteurs de Maïs ces derniers mois. Parce que bon, nous sommes tous conscients ici que déjà la définition du territoire en soi est un sujet d'étude. Qu'est-ce qu'un territoire ? Et je pense que nous serons aussi d'accord à cette table ronde pour dire que le territoire, ce n'est pas le local. Et quand on pense le territoire, la première pensée, c'est toujours voilà, la vente directe, les circuits courts, etc. Et alors nous, et c'est ça que je voudrais relater ici, nous avons dit, eh bien le territoire, il peut être franco-méditerranéen. Aujourd'hui, nous savons que de l'autre côté de la Méditerranée, à côté de chez nous, que ce soit les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, ils sont structurellement déficitaires en grains. Et nous avons fait l'analyse, et on a tous les fameuses émeutes de la faim aussi en tête de ces dernières années, que ces pays, aujourd'hui, importaient, bon an, mal an, plus de 20 millions de tonnes de grains de maïs, et qu'ils ne les achetaient pas en France. Nous sommes à 2 jours de bateau de chez eux, ils les achètent à 3 semaines de bateau. Et donc nous avons, partant de ce constat, décidé au sein de notre association de producteurs de maïs d'avoir une démarche volontaire pour rencontrer ces consommateurs de maïs. Alors nous sommes allés au Maroc.
C'est donc une réaction très écologique sur la oui. consommation du CO2 dans le transport du maïs. Ça a été l'élément déterminant aussi, un peu d'une démarche spécifique des producteurs que vous êtes.
Voilà, mais c'est aussi l'idée, à un moment donné, de dire, est-ce que nous, producteurs, nous pouvons rencontrer nos consommateurs ? Donc, nous avons fait un voyage l'hiver dernier au Maroc. Nous avons rencontré, bien sûr, des responsables agricoles au Maroc, mais des agriculteurs, des éleveurs, des directeurs d'usines d'aliments, un président, des présidents en conseil d'administration d'une coopérative laitière là-bas, pour discuter avec eux. Bien, pourquoi vous n'achetez pas de maïs français ? Quel genre de maïs voulez-vous acheter ? Est-ce qu'il est possible de faire des partenariats ? Alors, on n'est pas en train de discuter de 20 millions de tonnes de maïs. On est simplement en train de discuter, est-ce qu'on peut retisser des liens ? Et très concrètement, cette expérience, elle va dans les semaines qui viennent, très certainement, se concrétiser par des offres. Donc derrière ça, ce que j'ai envie de raconter ici... c'est de dire on peut, même dans une situation mondialisée, même dans une situation de marché, remettre l'homme au cœur des échanges, comme le voulait Raymond Lacombe.
La négociation économique.
Voilà, et dire les exportateurs, votre boulot, c'est la logistique, c'est la paperasserie de l'exportation, mais il peut quand même y avoir des contacts humains. Et je crois aussi, derrière cette expérience, c'est de manière un peu subliminale dire à nos collègues en France, sur ces filières longues qui sont les métiers du grain, il ne faut pas être seulement producteur-livreur. Et après, on a des COP, on siège, il y a des administrateurs agricoles dans les COP et ils s'occupent du reste.
Et vive le stress des marchés,
comme on dit. On peut ou on doit sans doute, nous aussi, producteurs, être co-acteurs de notre filière Et ça permettra peut-être justement la réflexion de l'avenir, de dire qu'est-ce que je produis, pour qui, comment je le fais, est-ce que je le fais comme mon acheteur le veut, etc. Voilà, donc je crois que ça ouvre des perspectives aussi de concevoir des territoires un peu plus vastes que ceux qu'on conçoit habituellement.
Alors là, vous définissez une idée du territoire qui était certes un espace géographique, mais dont vous cernez les limites, et un milieu, c'est-à-dire avec des interlocuteurs avec lesquels on échange, avec lesquels on discute. Vous le faites sur une production. Vous m'avez révélé ensuite une deuxième idée de territoire qui était plutôt liée à la gestion de la ressource. C'est celle, et là, elle vous est presque imposée par la loi, c'est la gestion de la ressource en eau. Pour vous, exploitant, elle redessine un autre territoire avec lequel il faut vivre et dialoguer. En quels termes ?
Alors là, je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut, dont on ne parle pas forcément beaucoup, parce qu'on est sur des sujets très techniques. Mais bon, globalement, tout le monde s'entendra à dire que l'eau est un sujet stratégique au XXIe siècle, pour toutes les raisons que l'on sait. Et nous avons eu en France une récente loi sur l'eau en décembre 2010 avec des circulaires d'application très récentes 2007-2008. Alors je ne veux pas donner de la facilité en disant on a une manière française lorsqu'il y a un problème de répondre par des règlements et des circulaires d'application, mais c'est un peu ça. Prenant en compte les difficultés qu'il y a sur les sujets de la qualité de l'eau dans les aires d'alimentation de captage, sur le partage de l'eau, de la gestion de l'eau sur certains bassins versants en déficit, le législateur français a créé ces deux dispositifs, aire alimentation de captage, zone de répartition des eaux, où on définit le territoire par un décret préfectoral. Et derrière, la loi écrit très exactement comment ce sujet complexe, multi-acteur, avec des acteurs, bien sûr, qui ont des intérêts parfois totalement opposés, la loi dit, vous allez mettre en place des indicateurs et on vous donne 3 ans pour vous mettre en ordre de marche. Donc là, je crois quand même, tous ceux qui vivent, qui s'occupent de ce type de dossier dans leur département aujourd'hui, on voit les acteurs sont complètement braqués, les services de l'État sont très perplexes sur ce qu'ils doivent faire, et on voit bien... Bon, l'avenir nous dira comment ces dossiers-là vont évoluer, mais est-ce qu'on prend les choses par le bon côté ? Voilà. Et je voudrais juste rendre hommage quand même à Sol, je n'y suis pour rien, mais qui depuis 2 ans, avec des responsables de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse sensibles à ces sujets-là, ont essayé, dans le Vaucluse, avec des responsables de la Chambre d'agriculture, avec différents acteurs politiques et économiques du Vaucluse, de travailler sur le sujet de la gestion de l'eau, mais d'une manière totalement différente, comme peut-être on peut savoir le faire à Sol.
Il y a un troisième territoire dans lequel vous vivez, je dirais, c'est un territoire de caractère social, parce que vous avez été très, très engagé dans un certain nombre de mouvements, notamment des ADMR, et c'est quand même aussi des caractéristiques qu'il ne faut pas oublier par rapport au monde agricole. Qu'est-ce que ça apporte, je dirais, un peu au repositionnement que nous nous efforçons aussi de faire aujourd'hui, à repenser la place de l'agriculture dans la ruralité, que cette sensibilité de pas mal de ces acteurs à la dimension sociale proposée par le milieu de vie.
Écoutez, je crois que... Bon, moi, je suis rentrée, je dirais, un petit peu dans ces questions territoriales et mes engagements syndicaux. Lorsque jeune maman, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait pour la famille et pour les enfants dans le territoire rural dans lequel je vis. Je suis dans un canton... Qui devait à l'époque avoir 15 000 habitants, avec un chef-lieu de canton de 650 habitants. Et nous avons vu dans ces années 90, le régime agricole a mis en place spécifiquement des plans locaux de développement pour l'enfance et la politique familiale. Et nous avons pu créer, dans beaucoup de territoires en France, de ces territoires ruraux, des crèches, des haltes garderies. Nous avons même, nous, une maison d'accueil parents-enfants, ces fameuses maisons d'Olto. Et je dois dire que jusque-là, eh bien, le milieu rural ne bénéficiait pas de ce type de service, parce qu'on pensait qu'on n'en avait pas besoin. Et bien nous a pris de faire cela, puisqu'aujourd'hui, on voit que nos familles agricoles nous demandent ce genre de service. Mais je crois que au-delà de cette réflexion, Le président Delevoye l'a bien dit ce matin, je crois qu'il a tout dit, on est dans une société qui est anxiogène, la mondialisation est anxiogène, et puis alors nous, Français, on nous répète toutes les semaines qu'on est le peuple le plus pessimiste du monde, ce qui fait que je pense que même ceux qui ne le sont pas, on va finir par le devenir.
Au moins par notre système médiatique.
Voilà. Et donc, il y a un élément, et peut-être j'ai cette sensibilité-là parce que j'ai des engagements professionnels sur les sujets environnementaux. Moi, je voudrais peut-être aussi aujourd'hui qu'on fasse le bilan des effets collatéraux de l'émergence de la problématique environnementale. Je m'explique. Qu'on soit tous bien d'accord, je ne suis pas en train de remettre en cause tout ce que les mouvements écologiques qui sont nés, hein, qui ont émergé dans les années 70, nous ont apporté sur la remise en cause d'un certain nombre de process, sur l'amélioration des choses, enfin sur cette conscience collective de l'impact environnemental, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais force est aussi de constater que ces mouvements écologiques ont donné naissance à l'émergence de certains penseurs, dont certains, moi je pense un peu à Ehrlich, ont repris les thèses malthusiennes avec beaucoup de force et de vitalité. On a vu aussi tous les penseurs de la décroissance apparaître. Et je crois qu'ils ont aussi contribué, même on sait très bien ce n'est pas que ça, à remettre en cause qu'est-ce que la recherche, à quoi sert la recherche, pourquoi faire de l'expérimentation qu'est-ce que le progrès ? Il me semble qu'aujourd'hui, on devrait plus sereinement faire entendre des voix, comme l'aurait voulu Raymond Lacombe, et comme il le disait dès la fondation de Sol et Civilisation, de dire qu'il faut remettre l'homme au centre du débat. Parce qu'on a un petit peu l'impression, quand on entend un certain nombre d'intervenants dans les médias, l'homme, ce n'est pas la solution. L'homme, c'est le problème. Mmh. Voilà. Donc, je crois qu'il faut faire entendre, rendre audible le discours de ceux qui ne pensent pas ainsi. Permettez-moi juste de raconter une anecdote, sans vouloir faire trop long. Il y a 8 jours, j'étais à Lyon à un colloque sur l'hydromorphologie des cours d'eau, qui était organisé par l'agence Rhône-Méditerranée-Corse. Avec, bien sûr, les usagers économiques, associatifs, gestionnaires de contrats de rivière. Pour clôturer les débats, l'agence avait invité Hervé Pieguet, directeur de recherche au CNRS, enseignant à l'ENS, pour clôturer nos débats. Et ce chercheur, quand il a pris la parole, il a regardé la salle, et ses premiers mots, il a dit « Mesdames, messieurs, dans les années 90, nous avons conçu le cours d'eau sans l'homme, et même plus, nous avons dénoncé l'impact de l'homme sur le cours d'eau. Eh bien, je vous le dis, cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, nous devons penser le cours d'eau avec l'homme, et nous devons même être capables de reconnaître quand les aménagements que l'homme a apportés au cours d'eau peuvent être bénéfiques. Ben, moi, des propos comme ça, ça me rend heureuse pour plusieurs jours.
Ça n'était pas dans... Merci de votre témoignage.